Eh bien, Henri Van Lier, nous commençons aujourd'hui ce parcours de quelques-uns des grands moments de notre littérature avec La chanson de Roland et Tristan et Iseult. Et d'abord, donc, vers les années 1100 et quelques, une langue dense et abondante se fait entendre en Occident.
La chanson de Roland est un coup de tonnerre. En fin de compte, on n'avait jamais entendu une pareille sonorité, ni chez les Romains, ni chez les Grecs. Carles Lyreis, une longue, deux brèves, une longue, encore la première longue a une compacité énorme, la plus compacte des consonnes avec la plus compacte des voyelles. Carles Lyreis, c'est Charles, il est le roi, et on dirait que les deux, sa royauté et son nom, ne font qu'un. Et puis là-dessus démarre encore Nostrem Pereire Romagnus. Tout d'un coup, des iambes, un appui très fort sur la deuxième syllabe, chaque fois, avec un sentiment d'ouverture. C'est-à-dire que Carles Lyreis, ce coriambe, est le maximum de la substance, de l'épaisseur, de la densité, mais en même temps, c'est une densité ouverte. C'est en toutes plaines, ad estet en Espagne. Et voilà toutes les déterminations de temps, les 7 années, qui est un nombre fatidique, et en même temps les déterminations de lieu, 7 ans toutes plaines, avec la même plénitude, avec à peu près aussi cette même structure de longue, de brève, longue, ad estet en Espagne, mais cette fois avec 3, 3, qui donne une circularité à la saisie. Tresquen la mer, conquiste la terre, altagne. Jusqu'où est-ce allé? Eh bien, c'est allé jusqu'à la mer, cette conquête, sur une terre qui est à la fois haute et hautaine. N'y a de castel qui devante lui remagne, il n'y a de château qui n'a résisté devant lui, mur ne citet, ni est remis à freindre, ni mur, ni cité. N'y est resté à casser. Et voilà donc tout cet énorme mouvement dans le même sens de la substance, qui en même temps est une substance ouverte, épanouie, entreprenante, et sur cet immense développement va surgir quelque chose qui résiste, force exceptée. Saragosse. Et on s'en doute déjà, rien que par la disposition phonique, c'est une ville qui doit être en hauteur, qui atteigne une montagne, qui est dans une montagne. Et alors quelque chose de très particulier. Maintenant que nous savons que ce mouvement va rencontrer une résistance, cette résistance va d'abord se présenter sous une forme séduisante, légère, quasiment impondérable, et devant Carles Lyreis, qui est la force de l'Occident, on voit apparaître Lyreis Maxillilatient, une série de i en hauteur. Qui la tient? Eh bien, c'est le roi Marcille. C'est l'autre côté. C'est le monde musulman. C'est le monde séduisant. C'est le monde où on a le sens de la jouissance. Mais aussitôt, Lyreis Marcillilatient, qui deunenaimt. La chose la plus épouvantable qui soit, aussi massive que la substance de Charles, qui n'aime pas Dieu. L'irréparable. Mahomet, certes. Il sert Mahomet. Et Apolline, nous revenons au i. Reclaimt, nous reprenons une certaine hauteur, une certaine détente. Il faut s'y attendre maintenant à une espèce de dernier coup, de dernière déflagration. N'est-ce poet garder qu'Emals ne l'y atteigne? Ah oui! il ne peut garder que le mal ne l'atteigne. Jamais sans doute l'être humain n'a eu un pareil sens de la consistance, de la substance, et il ne l'aura peut-être plus jamais par après. Nous sommes à un moment tout à fait particulier, nous sommes à quelques dizaines d'années de l'an 1000, un peu avant 100, un peu après 1200, et il y a eu un formidable départ. C'est-à-dire que l'artisan qui, avec les Grecs et les Romains, était devenu un artisan rationnel, il va devenir l'artisan transformateur. C'est-à-dire que c'est tout le démarrage de l'Occident. Dans un petit millénaire, cet Occident mettra dans le ciel des Boeing 747. Il va y avoir une prise en main de l'homme par l'homme, un élan, une entreprise gigantesque. En même temps, quelques années avant, autour de l'an 1000, la gamme s'est posée comme gamme ascendante, ou tré mi fa sol la si ut, chez Guy d'Arezzo. Et tout ceci ne peut bien être compris que dans une basilique romane. Chacun des vers est comme un pilier de basilique romane. Et tout l'ensemble va se présenter, la laisse, la succession, avec ses assonances, Magne, Espagne, Altagne, Romagne, Fragne, Montagne, Nenaimt, Reclaimt et Atagne, va se présenter comme la nef de cette basilique. Une nef qui n'est pas du tout encore la nef gothique. C'est une nef qui va d'appui en appui, qui va de solidité en solidité, dans le même sentiment de la substance. Il faut se rappeler aussi qu'il y a eu un peu avant la bataille de Hastings. Nous sommes à cheval entre l'Angleterre et la Normandie. À peu près la région, sans doute, où ceci est entendu, où ceci est, n'oublions pas, est crié à des groupes importants, beaucoup plus que lu, c'est crié. Et dans cette Normandie, il y a d'ailleurs, à l'abbaye du Bec, il y a un personnage immense, Anselme, philosophe, qui va oser dire que, à partir d'une idée et d'un mot, on peut, dans certains cas, prévoir, percevoir, saisir l'existence de ce qui est impliqué comme ça. C'est-à-dire qu'à partir de la notion de Dieu, en l'occurrence, on va pouvoir en tirer l'existence, comme d'une certaine façon, le roi, la notion de royauté, dans toute sa plénitude, engendre en quelque sorte Karl Magnus, qui est tellement immense que non seulement nous avons la fermeture de la longue brève longue, mais que, entre Karl et Magnus, tout le reste du vers va venir s'insérer. En effet, la construction, c'est Karles Lireis, Nostrem Perere Magnus, et à ce moment-là, on connaît déjà très très bien le mot Charlemagne. Et donc, tout le vers lui-même est enserré dans ce nom. Anselme qui va, en quelque sorte, avoir une audace qui est un peu semblable aux audaces de Parménide au début du monde grec, quand tout d'un coup, on va dire, l'être est, le non-être n'est pas. Ici, c'est quelque chose d'un peu différent, mais presque aussi fou, aussi faux d'ailleurs sans doute, mais aussi audacieux. Si je pense l'être dans son indéfinité, eh bien l'être existe dans son indéfinité. Et avec ceci que donc ce texte a une espèce de force de croyance interne énorme, qui est toute sa sa plénitude de diction, on comprend, mais on comprend à partir d'une foi dans cette royauté triomphante, et alors bien sûr, tout a démarré à partir de ce moment où les deux forces sont en présence. Nous allons pouvoir repartir « Lireis marsil lestuet en saragots »« Allez en est en un verger sous l'ombre » Nous sommes là bien dans le monde de la volupté qui se trouve en face, sur un perron de marbre blois cult, il est couché sur un perron de marbre bleu. Et voilà, une fois cette substance ainsi acquise, elle va, à travers les années qui vont suivre, à travers toute l'évolution de l'architecture romane, elle va devenir la substance beaucoup plus ouverte encore de Tristan et Iseult, de Tristram et Iseult. Et ça, somme toute, à travers trois grandes choses. Tout d'abord, l'introduction de l'engine, de l'artifice transformateur. Le mot engin est énorme en ancien français. On dit engine, engine, engineance, enginement, ingénierie, à notre ingénierie maintenant. Tout ça répond à des ingenios, ingénieur, 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 ingénieuresse, et l'ingénieuresse par excellence, c'est Iseult. Il y a donc l'engin. Un de ces engins importants, nous allons le voir, c'est les réponses de l'image. Les choses vont commencer à se mettre à distance d'elles-mêmes à travers des images, mais des images au sens occidental, c'est-à-dire des images qui ne sont pas exactement ce qu'elles représentent, et à travers aussi un certain exercice, nous allons le voir dans un instant, de la mémoire, tout ça créant une certaine conscience indépendante. On va progressivement sortir de la formidable massivité de Karl Lireis. Eh bien, transportons-nous au centre de Tristan Iseult Beroult, c'est-à-dire à la scène du serment, disent, qu'est-ce qu'elle dit? Or, écoutez que je si jure. C'est à peu près aussi fort que la chanson de Roland. Un peu moins, quand même. Et nous passons à des vers du beat. Mais quand même, cette même massivité. De quoi le roi si assure? Ce de quoi j'assure le roi. Qu'entre mes cuisses n'entra homme. Force acceptée. Ça nous rappelle un autre excepté. Le ladre, c'est-à-dire le lépreux, qui fit soi somme, qui s'est transformé sous moi en bête de somme, qui me porta outre les guets, qui m'a porté au-delà des guets, et aussi li roi Marc mes esposes, et aussi le roi Marc, qui est mon époux, qui est un peu le roi Marc mes esposes, comme le Carles et li Reis. À ce moment, tout le monde qui est rassemblé, le roi Arthur a fait un trajet de plusieurs semaines, il est venu avec tous ses hommes, tous ont entendu Iseult, tous, s'ils qui l'ont, oh oui, jurèrent, ils l'ont tous entendu jurèrent, disent ça suffit, ne plus endurèrent. Et tous répètent en cœur, elle a juré et mis en vœu, qu'entre ses cuisses nus n'entra, que lit Méséo, que le lépreux, qui la porta, hier en droite tierce, outre les guets, hier à l'heure de tierce, au-delà du guet, et li roes Marc ses esposes, et le roi Marc son époux. Et alors ici, nous allons essayer maintenant de voir, d'entendre ce qu'un médiéval entend. Eh bien, comme dans la fable grecque, tout le monde sait de quoi il s'agit. On sait d'avance, en gros, quels sont les mécanismes. Mais on va maintenant avoir essayer de trouver le plaisir médiéval où on voit comment Iseult va, en quelque sorte, prévoir toute la scène, la monter elle-même, moins en quelque sorte de trop, c'est bien un engine, et nous allons voir son ingénierie. Elle a envoyé en effet d'avance à Tristan un messager pour lui dire ceci. Tu vas lui dire, dis-lui, et vous allez voir ici toute une image coïtale, extraordinairement détaillée, et que l'auditeur médiéval suit strictement mot par mot. Dis-lui qu'il sait bien un Marchès. Dis-lui qu'il connaît bien un certain Marais. Et le Marais est toujours, il revient partout sous cette forme, dans tous les Tristan et Iseux, comme image coïtale, avec sa confusion au chef des planches. Sur la passerelle, je crois qu'on me suit, et même au bout de la passerelle, au chef des planches. Et tout ça s'appelle le mal pas, le mauvais pas. J'y soliais déjà un poil m'aidera. J'y ai déjà, dans ce fameux Marais-là, j'y ai déjà quelque peu souillé mes draps. Où est-ce qu'il se tiendra? Sors la motte. Au-dessus de la motte, la terre labourable. On insiste bien, elle chef de la planche, au bout de la fameuse passerelle, et où se trouve la motte. Il va tenir en main un hanap et une bouteille, les deux étant bien entendu liés. On retrouvera ça jusque chez Villon. Un hanap porte, au soie de madre, et encore il faut que le hanabre soit de bois veiné. Il aura une bouteille dessous, au courroie attachée par nos, une courroie attachée par un nœud, à l'autre main, tiens-je, pour que ça devienne tout à fait explicite, et de l'autre main alors, il tiendra une béquille. Au moment venu, il lèvera le hanap devant son front, et alors, à ceux qui passeront, il demandera l'aumône, ils vont lui donner de l'or et de l'argent, garde-moi l'argent, qu'il me garde l'argent. Il ne peut pas garder l'or. L'or est conjugal. L'or, c'est l'anneau du roi. C'est ses spouses qu'elle pourra peut-être lui donner. Mais l'or est conjugal. Tout ce qui peut être échangé ici, c'est l'argent. Ce n'est plus un Danaé fécondé par Jupiter sous la forme d'une pluie d'or. Mais garde-moi l'argent, qu'il me garde l'argent, tant que le voit, de façon à ce que je puisse le voir privément, de manière privée, et cela en chambre quoi, et cela dans ma chambre bien qui est. Alors, voici un premier jeu d'image. On voit comment, donc, il y a déjà une certaine distance qui s'établit entre le serment et ce que nous venons de lire, qui est la prophétie du serment. Et quel a été son accomplissement? Eh bien, je vous donne quelques mots. Cuite, fait-elle, un poil t'arrange. Allons, fais vite, arrange-toi. Cuite-tu, penses-tu que je vais attraper ton mal, que je vais attraper ta lèpre? Ne t'en fais pas. Et alors, voici. Oh, le pouillot sauvant sa poil. Avec sa béquille, souvent, il s'appuie, et lui dit, « Diva, hola, malade, mot est-ce grosse, tu es bien gros. Tourne ton visage de ce côté-là, et ton dos, je monterai comme un vasselette. Je vais monter comme un valet, c'est-à-dire comme un jeune garçon mâle. » Tourne le dos et elle monte, et au moment où elle le monte, au sens bien prévu, tuite les gardes et rois et comtes. Tous les regardent, et le roi et le comte. Ses cuisses tiennent sur son pouillot. Elle tient ses cuisses donc sur la béquille. L'un pied s'en lève, elle lève un pied, et l'autre clôt. Souvent fait semblant de choir, l'idée de chute ayant une signification absolument précise à travers tous les textes de Tristan et Iseult, Tristran et Isolde. Souvent fait semblant de chevoir, Iseult la belle chevaucha, jambe de ça, jambe de là, dit l'un à l'autre, or, est-ce gardé? Voyez la reine chevaucher un malade, qui sait clocher, je reviens au choir et clocher, près qu'il ne chiède sur la planche, son pouillot tient de sort sa hanche. Donc, l'auditeur, le lecteur, celui qui, disons, jouit de la littérature, et celui qui va pouvoir percevoir cet engine, qui va pouvoir saisir ces décalages progressifs, qui maintenant, bon, nous en avons vu à l'intérieur de Béroul, nous en avons vu, si vous voulez, deux ou trois déjà, et nous allons voir maintenant l'ensemble repris par Thomas. Et je vous signale tout de suite que le passage que nous allons voir est introduit par une théorie, véritable théorie de l'image. Il palpe l'image d'Iseult. Tristan parle à distance. Et quelle est l'image maintenant d'Iseult? Eh bien, c'est une autre Iseult. Iseult ne peut avoir comme image qu'Iseult, mais c'est Iseult cette fois-ci la Vierge. C'est Iseult aux blanches mains. Celle qui n'a jamais salit son drap dans le Marchès. Ils eux au blanc chemin est sur la route avec son frère. Et nous allons avoir un troisième ou quatrième jeu d'image. Tout l'ensemble va être repris en scène coïtale, mais en scène coïtale vierge, si vous voulez. Frigide, pourrait-on dire. Froide, nous allons d'ailleurs avoir le mot froid. Avec Caerdin, elle chevauche, ils sont tous les deux à cheval. Bon, et la signification donc du cheval est évidente, nous l'avons déjà rencontré, de la bête de somme, ou bien ici du cheval. L'un est à gauche, l'autre est à droite, tout ça est extrêmement appuyé. Et brusquement, il y a un cheval qui fait un écart. C'est la Caerdin se desserre. Et l'Isolde, celui d'Isolde, contre l'ouille, s'arbrouille, il se cabre. Et alors maintenant, nous allons avoir tout ce développement, de nouveau, de l'image, et que les auditeurs écoutent littéralement mot par mot. Elle est le fier des éperons. Elle, c'est elle. Elle va le frapper des éperons, ce cheval. À lever que fait des chalons. Au lever, donc, des sabots. À l'autre coup que va le ferrir, au moment où elle veut le ferrir, estouait-il sa cuisse à ouvrir. Il lui faut, donc, sa cuisse à ouvrir. Pour se tenir, la destre restreint, elle tire. Le palefroid avant de s'emprunt, le palefroid en quelque sorte s'enfonce dans le sol, et il glisse à la baissière au moment où il s'abaisse, en un petit croc, dans un creux, en œuvière. Les pièces de nouvelles, et ses pieds sont ferrés de neuf. Oh, où va-t-elle, elle taille, c'est cruissé, où il va? La boue, toujours la boue, c'est la même chose que dans le Marquès, les tailles, c'est cruissé, c'est mise en coquille. Au moment où on frappe le pertuis qu'il fait, elle pertus, del creux del pied, saut, et au juste, il y a de l'eau qui remonte le long de la jambe d'Isolde. Contre les cuisses, lit saillit. Quand elle s'écuit, c'est novri. Pour le cheval, que ferrir volte. Qu'elle veut frapper. De la frayeur, c'est froid, Isolde. Il y a ce froid de l'eau qui lui remonte. Isolde, bien entendu, aux belles mains, cette fois. Aux mains blanches. J'ai un cri. Orgastique, dirions-nous. Et rien ne dit. Et ici, de parfond cœur se rit. Elle rit du plus profond de son cœur. À tel point que si hier une quarantaine encore s'astante, t'as donc à peine que si avec 40 gars là en train de pleurer de deuil, eh bien on les entendrait même pas tellement, ce rire est fantastique. À quoi son frère dit, Isolde, de parfum réite, mais ne sais dont le riz fait, mais je ne vois pas de quoi vous avez ri. Et tout le monde a bien entendu compris, mais tout va être de nouveau dans l'image, dans le déplacement de l'imagerie, dont je rappelle qu'elle est une espèce de détachement progressif de la conscience par rapport à son environnement. Et elle va répondre ceci, elle dit, je vais directement à sa réponse, « Je ris de mon pensée, je ris de ce que je viens de penser, d'une aventure que avin, d'une aventure que j'ai eue, et por ce rit comme en sauvin. » Ah oui, l'idée du souvenir, chaque fois, de la mémoire est extrêmement importante, parce que c'est de nouveau un décalage par rapport au réel. Cet aigle, cet eau, que si esclata, qui a éclaté ici, sort mes cuisses plus haut, monta, elle est montée plus haut sur mes cuisses, que honte main d'homme ne fiste, que jamais une main d'homme n'a fait. Ne que tristran, honte ne me cuiste. C'est aussi fort, à peu près aussi fort que la chanson de Roland, je reviens à Carlos de Reis, où mur ne citait ni remet à freindre, que honte main d'homme ne fiste, ne que tristran, honte ne me cuiste. On peut donc, le jeu de mots sur cuisse et cuiste étant cherché. Frère, or, vos, et dit le, et puis le scribe s'arrête. Et à côté de toutes ces ouvertures que nous retrouvons évidemment dans les folies Tristan, maintenant il n'est plus déguisé, la distance qu'il prend n'est plus celle du lépreux, la distance qu'il prend c'est celle du fou. Or, cette fois nous allons avoir bien sûr, comme il va simplement chaque fois rappeler à Iseux pour se faire reconnaître ce qui s'est passé, nous allons avoir la description la plus naïve, et nous allons trouver que, Isolde, vous m'avez demandé de me laisser choir, c'est bien le sens que nous avons rencontré jusqu'à présent, est-ce que ce n'est pas vrai? Je me suis laissé tomber doucement sur la terre, et vos cuissettes m'a ouvriste. Imilessai chahir dédance. Et cette fois, nous avons la description la plus simple, la plus immédiate, parce que ce n'est pas tellement l'objet, c'est surtout la réminiscence qui est importante ici. Mais chaque fois, les mêmes mots sont réemployés exactement. Quand nous passons d'une basilique romane à l'autre, nous nous trouvons toujours exactement devant le même plan basilical. Et un des plaisirs fondamentaux qui devait être aussi un des plaisirs à l'époque, c'est de voir la variation qui est introduite, dire « Ah, voici comment il a résolu ceci, voici comment il a déplacé. » Comme ici, nous voyons tout d'un coup, « Ah tiens, on sort d'Isolde, et maintenant c'est une Isolde, mais elle est au blanc chemin, et elle, ce qui va la frapper, ce sera l'eau froide, etc. » Il y a un déplacement à l'intérieur de la systématique. En fin de compte, il est intéressant de se dire que pour finir le mythe, la dernière image de ce déploiement, ça va être maintenant non plus une image d'ouverture, mais une image de fermeture. Et c'est la conclusion chez Thomas. En effet, au moment où il meurt, les deux vont être accolés, embrasse-le, et si s'étend, elle s'étend exactement sur lui. Baisse la bouche et la face baisse. Hein. La bouche, la face. Et molt estret, et lit l'embrasse. Corps à corps, bouche à bouche, estend. L'image est fermée, Tristan et Iseult, d'une certaine façon, est au bout de toutes ses possibilités, de ce qu'il a essayé d'être, à savoir un exemple, dit Thomas. C'était intéressant que Tristan et Iseult essayent d'être un exemple, alors qu'un demi-siècle environ avant, Saint Anselme a développé une théorie de l'exemplarisme. Il s'agissait, dit-il, d'embellir l'histoire, de l'embellir par tous les déplacements que nous venons de voir d'engins, déplacements d'image au sens occidental, et non plus au sens de l'icône, où d'une certaine façon l'image est toujours extrêmement proche de ce qu'elle représente. Et le dernier mot de Thomas que nous possédons, c'est bien de « encontre twist tous les engines ». Voici de nouveau le mot fondamental. Engines, l'engines d'amour. Il est intéressant peut-être de se demander maintenant où on en était au moment de la chanson de Roland. Revenons un instant au moment où Aude est montée. Elle est Ald, comme Iseult, et Isolt, avec une espèce de L rentrée, qui a évidemment une très grande force. Et qu'est-ce que nous y voyons? Eh bien, c'est ce dialogue foudroyant. Ça! Dist, elle règne. C'est ceci qu'elle a dit au roi. Ohé, Roland le capitaine. Où est Roland le capitaine? Qui me jouera comme sa père à prendre? Chaque vers est absolument complet en lui-même. À quoi Charlemagne va lui répondre, soit cher ami, d'homme morte me demande. C'est d'homme mort que tu me demandes. Alde répond, après Roland que je vive Romagne, impossible que je lui survive, et puis de nouveau toute la sculpture romane ou toute la basilique romane perd la couleur, chète à spier Carlemagne. Tout y est dans une massivité absolue, mais c'est pas fini. Charlemagne n'a pas vu qu'elle était morte. Et nous allons avoir une des plus belles sculptures romanes existantes. Prant la as mens. Il la prend à ses mains. S'il en a relevé, en un verbe bien sûr, hein, il en a par là, par cette main relevée, et alors toute la sculpture est là, et sur les espalles, sur les épaules, ad la tête clinée, et finissons peut-être en reprenant les deux vers, prant-la, asmens, s'il en a relevé, sur les espaces, at la tête clinée, et il n'y a plus rien à ajouter.